Le bistrot du livre. Poussez la porte, asseyez-vous, et la suite, on vous la raconte. Se balader au milieu des livres, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, il n'y a pas de raison, des invités et les petites histoires des grands auteurs.
Le bistrot du livre, une émission proposée par Cépage d'Encre en compagnie de Françoise et Henri. Bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, place à une femme à embrouille. Mais attention, une femme sympathique, attachante, extrêmement douée, mais douée aussi et surtout pour les embrouilles. Déjà, son nom à lui seul est une embrouille. Pas simplement un pseudo, ce serait trop simple. Ensuite, son parcours. Une scientifique, née d'un père compagnon de route des surréalistes et d'une mère ingénieure chimiste. Une fille qui a une jumelle, un peintre, dont elle a pris le pseudo lorsqu'elle s'est mise à écrire, avec un diminutif comme prénom. Vous me suivez ? Vous êtes perdu ? Normal. Et ce sera comme ça tout le temps. Cette fille vous mène en bateau en permanence. Et non seulement vous vous laissez embarquer, mais en plus, vous devenez accro. Vous croyez lire un polar, mais vous vous apercevez vite que l'intrigue n'est qu'un prétexte, juste un point de départ pour vous emmener dans des univers historico-fantasmatico-surréalistes. Peut-être l'héritage de papa. Elle vous colle sous le nez des personnages aussi bizarres qu'attachants, aussi lunaire que décalé, des policiers sans méthode et une tribu d'allumés de tout poil qui hantent les forêts normandes, les petits ports bretons ou les tribunes de la Convention au temps de la Révolution.
Son nom ? Frédéric Audouin Rouzeau, alias Fred Vargas.
Et oui, la Fred Vargas, qui depuis une trentaine d'années nous a rendus aussi impatients de la sortie de son nouveau livre qu'un marin perdu sur une île déserte et qui guette l'horizon à la recherche d'un hypothétique bateau. Fred pour Frédéric, une coutume de famille donc, où chacun a pris l'habitude de raccourcir son prénom. Vargas, comme sa sœur jumelle, une peintre, qui a pris comme nom d'artiste, Jo pour Joël, Vargas, en hommage à l'héroïne du film de Mankiewicz, la comtesse aux pieds nus, Maria Vargas. Et au départ, rien ne la prédestine au roman. Brillante étudiante, elle se spécialise en archéozoologie et bosse pour le CNRS. Un doctorat sur la peste et sur les rats, des chantiers un petit peu partout en France, et un jour, comme ça, l'envie d'écrire, avec un premier manuscrit qu'elle envoie en 86 directement à Cognac, au Festival du roman policier. Bingo ! Avant même d'être édité, elle reçoit le premier prix et trouve vite refuge à la collection du Masque. Son titre, Les Jeux de l'amour et de la mort.
Continue comme ça, se dit Tom, et tu sais très bien comment ça va se terminer. Ça va se terminer mal, voilà comment ça va se terminer. Et le mieux serait d'abord de bouger de ce foutu banc. Le mieux serait de trouver quelque chose d'intelligent à faire, quelque chose qui donne envie de bouger. Certainement, il allait se lever, il n'y avait pas enfer là-dessus. Tout de même, il avait assez mal aux jambes et à force. Et puis, il avait encore trop chaud. Lui et Jérémy étaient très à cheval sur ce qui touchait les questions de chaussures. La chaussure, disait Jérémy avec un peu de gravité, c'est ce qui demeure quand tout le reste change. C'est le noyau résistant, la partie rétive de l'être aux fluctuations du temps.
Et avec ce roman, la carrière de Fred Vargas est lancée. Alors elle crée toute une galerie de personnages à sa façon, je disais lunaire, on pourrait dire poétique, décalé, hors du temps, des vrais personnages de roman. Tiens, on va en passer quelques-uns en revue.
Jean-Baptiste Adamsberg, personnage principal de la plupart des romans, commissaire flâneur et flegmatique, dépourvu de véritables méthodes d'investigation.
Adrien Danglars, capitaine puis commandant, méthodique, au savoir immense, divorcé, père de 5 enfants qu'il élève seul, et grand consommateur de vin blanc et de bière.
Camille Forestier, musicienne, plombier. Elle a une relation mouvementée avec le commissaire Adamsberg.
Violette Rétancourt, lieutenant d'Adamsberg, mieux vaut ne pas se fier à sa forte corpulence, surnommée la déesse par le commissaire.
Vérinck, lieutenant, béarné comme Adamsberg, signe particulier, parle en alexandrin et a une mèche rouge au milieu de la tignasse.
Estaler, brigadier dont les yeux verts sont en permanence écarquillés, protégé par Damsberg, mais considéré comme idiot par le reste de la brigade.
Froissy appartient à la brigade, obsédée par la nourriture, elle en cache partout.
Marc Van Dusler, dit Saint-Marc, homme de ménage le jour, médiéviste la nuit, adore porter de lourdes bagues en argent.
Lucien de Vernoy, dit Saint-Luc, historien spécialiste de la Grande Guerre, il utilise beaucoup d'expressions de cette guerre. En fait, le portrait type du frère de Fred Vargas, grand historien. Et Mathias Delamarre, dit Saint-Mathieu, archéologue, spécialiste de la préhistoire. Se balade souvent en sandales et généralement tout nu.
Voilà le monde de Vargas. Et à cela, on pourrait ajouter le voisin d'Adamsberg, un réfugié espagnol amputé d'un bras qui le démange lorsqu'il a un pressentiment à propos d'une enquête qui hante le commissaire. Ou alors, ce crieur de rue, en plein Paris, au cœur de l'enquête dans « Pars vite et reviens tard ».
Cela faisait cette année que, après quelques mois de rodage difficile, trouver le ton, placer la voix, choisir l'emplacement, concevoir les rubriques, fidéliser la clientèle, fixer les tarifs, Joss avait embrassé la profession d'Ecati de crieur. Des petits groupes se massaient autour de lui pour entendre la crier des nouvelles. Il récoltait dans son urne une quantité de messages assez considérable, une soixantaine par jour en moyenne, et bien davantage le matin que le soir. La nuit étant propice aux dépôts furtifs, chacun sous enveloppe cachetée et lestée d'une pièce de 5 francs. 5 francs pour entendre sa pensée, son annonce, sa quête lancée dans le vent de Paris.
Dans ses romans, Fred Vargas a le don d'installer au départ son lecteur dans un décor banal, familier, de plonger ses personnages dans le ronron d'un quotidien aussi dénué de suspense qu'une table de multiplication. Et c'est là le piège. On se laisse porter, presque endormir, et au détour d'une phrase, surgit un élément irrationnel, imprévisible, qui fait tout basculer.
Donc, prenons une mouche. La mouche est entrée dans la maison et elle énerve tout le monde. Des tonnes de battements d'ailes à la seconde. C'est fortiche une mouche, mais ça énerve. Ça vole dans tous les sens, ça marche au plafond sans trucage, ça se fout partout là où il ne faut pas. Et surtout, ça trouve la moindre goutte de miel égarée. L'emmerdeuse publique. Le réflexe imbécile est de foutre la mouche dehors. Et c'est la bourde. Car une fois dehors, que fait la mouche ? Elle fait l'imbécile 2 ou 3 minutes, c'est entendu, et puis elle s'accouple. Et puis, elle pond. Ensuite, on a des milliers de petites mouches qui grandissent, qui font les imbéciles et qui s'accouplent. Donc, rien de plus inconséquent que de foutre une mouche dehors. Ça démultiplie la puissance de la mouche. Une mouche dehors, c'est la menace, le grand danger.
Et vous voilà embarqué dans une sale affaire qui ne connaîtra son dénouement qu'après 253 pages. Tout simplement à cause d'une mouche, ou alors d'une crotte de chien qui traîne au pied d'un banc public dans un square à Paris. Un square tranquille, mais qui est pourtant l'objet de toutes les surveillances. Parce que c'est là qu'habite le neveu d'un député. Et la suite, elle se trouve un petit peu plus loin sur la droite. C'est l'un des titres de Fred Vargas. Allez, encore un exemple de cet univers bien particulier de Vargas. Un univers très poétique sur fond de, plus souvent, de sordide. Avec toujours une dose d'humour servie bien frais. Nous sommes au cœur de l'enquête des temps glaciaires. Son dernier titre qui nous emmène au cœur de la Révolution française. Ou plutôt, au cœur d'une société secrète d'adorateurs de la Révolution. Nous sommes chez le commissaire Adamsberg, à l'heure du petit déjeuner. Tout serait normal, jusqu'à ce que surgisse, comme la mouche de tout à l'heure, un intrus.
À l'opposé de son collègue Danglars, Adamsberg n'avait pas besoin de beaucoup de sommeil. Il ouvrit les yeux à 7 heures, mit le café en route, tandis que son fils Zerk coupait le pain. Zerk n'était pas plus maniaque que lui, et ses tranches étaient épaisses et inégales. Des soucis cette nuit ? Un mort dans la vallée de Chevreuse. Interrogatoire, fils nerveux, joli comme une fille, secrétaire doué d'une étrange mémoire, un haras, une brute pour le diriger, une femme logée dans une cabane forestière, un sanglier, l'auberge locale, la guillotine de Louis XVI, une tour maudite pleine de fientes de corvidés, le tout dans un endroit qu'on appelle le Creux, qui n'est pas sur la carte. C'est mal embrayé. C'est très compact. Le pigeon est passé hier, tu l'as raté. Ça faisait bien 2 mois qu'il n'était pas venu. Il allait bien, très bien, mais il a encore chié sur la table.
Un pigeon, soigné jadis par le commissaire et son fils, et qui depuis vient faire ses visites de courtoisie. Un personnage qui surgit de nulle part et qui traverse tout le livre, et qui est déjà s'était imposé dans un précédent roman, L'Armée furieuse. Un intrus qui prend ses aises sans trop demander l'avis à l'auteur. Pourquoi, comment, là, faut le demander à Fred Vargas. Et elle-même vous dira qu'elle ne sait pas trop. Le pigeon s'est imposé, c'est tout.
Je sais pas, il veut pas partir. Bon, ce pigeon, j'avais rencontré en vrai, mais tout le monde connaît ce phénomène cruel. Je suis dans un café à Paris et je vois passer un pigeon qui péniblement avançait centimètre par centimètre parce qu'il avait autour des pattes un fil. Et pourtant, genre, nous les Parisiens, les pigeons, on s'en fout, quoi. C'est dégueulasse. Mais quand tu vois un pigeon qui porte sur lui le signe de la cruauté humaine, l'inutilité du sadisme, avec une ficelle donc qui lui coinçait les pattes, c'est-à-dire une mort très lente, parce qu'il peut plus décoller, il peut plus manger, il peut plus rien, il a plus qu'à agoniser, essayer de marcher comme ça. Je me rue en dehors du café, je saisis le couteau qui était près de mon assiette, je cherche le pigeon pour lui couper cette ficelle. Et plus de pigeons, je me dis, il n'a pas pu aller bien loin, donc je commence avec mon couteau sous les voitures, partout, moi j'avais tout laissé dans le café, le sac, le manteau, bon, rien. Et pendant une semaine, je trimballais avec des ciseaux, dans ma poche, au cas où je le cherchais partout. J'ai jamais retrouvé, donc je restais en frustration. Un jour, j'ai discuté avec une journaliste à qui la même histoire était arrivée. C'est pas une histoire, c'est une histoire commune, hein. C'est pas une aventure, mais cette cruauté. Mais bon, puis finalement, elle avait réussi à lui couper la ficelle, elle avait désincrusté, puis elle l'avait soignée sur son balcon pendant un mois, nourrie, réhydratée. Et puis un jour, le pigeon s'est envolé. Et un mois après, elle a entendu toquer à la vitre. Et c'était le pigeon, et tous les mois il revenait, tous les mois. Il venait faire un petit bonjour, salut et tout. Bon. Alors c'était bien contente qu'au moins par translation, celui-là ait été sauvé de la cruauté. Et donc je voulais juste faire un clin d'œil dans ce livre. Je me dis, tiens, cette histoire de pigeon qui m'a frustrée parce que j'ai pas pu le sauver, faire un petit clin d'œil symbolique pour dénoncer la cruauté immonde de l'être humain. Alors je le place, il reste... Je dis, mais tu décolles, oui ou non? Et il n'a pas décollé.
Une conversation un peu bruyante parce que c'était au Salon du Livre de Colmar. Et donc un pigeon qui s'impose, mais il n'est pas le seul dans la vie et l'œuvre de Vargas. Il y a aussi, par exemple, l'affaire Battisti, dont elle est devenue l'une des plus ardentes avocates. Cesare Battisti, ancien militant d'extrême gauche dans l'Italie des années de plomb, accusé de meurtre par la justice de son pays, réfugié en France, devenu lui aussi auteur de polar, avant que Paris ne décide de l'extrader vers Rome. C'est là que Fred Vargas est monté au créneau, mobilisé sur tous les fronts. Battisti depuis s'est réfugié au Brésil, où le président Lula lui a accordé l'asile en 2004, mais dont le sort est toujours incertain, une cause que défend bec et ongle cette femme vraiment singulière. À lire ou à relire, si ce n'est déjà fait, à découvrir en tout cas de toute urgence, pour peu que vous aimiez les polars qui ne soient pas que des polars. Allez, sur le comptoir du livre, quel livre a dégusté Charlie, Françoise, Charlie ?
Eh bien, Virginie Despentes, avec Les chiennes savantes. Alors, on fait le parallèle, bien entendu, avec le titre Les femmes savantes de Molière. Virginie Despentes, alors le cadre, toujours un petit peu le même, un peu glauque, éclairé par des néons. Là, on s'en va dans les lieux controversés du sexe féminin, les pipes chaudes, la prostitution, la pornographie. Et en même temps, ces femmes, enfin, ces chiennes savantes, c'est tous les électrons libres de notre société. Et en plus, c'est un fond de... Il y a une enquête policière, un petit peu polar, celui-là. Les chiennes savantes de Virginie Despentes.
Françoise ?
Alors moi, pour un dictionnaire, ça va devenir une habitude, je sens. Donc ça, c'est... Donc on a vu que Fred Vargas aimait fouiller. Elle est archéologue et nous surprend dans ses romans. Et ce dictionnaire aussi. Il s'appelle « Dictionnaire des sens cachés ». Son sous-titre, « La surprise ». Il s'intéresse aux mots, au sens premier et insoupçonné des mots. Alors, comme petit exemple, un ambigu, par exemple, c'est un repas qui n'est ni un déjeuner ni un dîner. Une erreur, c'est une errance, un voyage comportant des aventures. Un murmure, au premier sens, c'est un brouhaha, un tumulte. Verbaliser, c'est faire de grands discours inutiles. Alors, je vous rappelle, ça s'appelle « Dictionnaire des sens cachés », c'est de Alain Duchesne et Thierry Leguet. C'est la collection « Le souffle des mots » chez Larousse.
Et pour ma part, sur le comptoir, j'ai posé un cocktail d'absurdes rafraîchissants. On le doit à Hervé Letellier, un touche-à-tout génial, mathématicien, journaliste. Et c'est un homme à l'humour qu'on adore, qu'adore les matheux, c'est l'absurde. Déjà le titre, « Demande aux muets ». Ensuite le sous-titre, « 115 dialogues socratiques de qualité ». Socrate n'a qu'à bien se tenir. Des dialogues courts, avec toujours le sage et son disciple. Et croyez-moi, ça donne. Vous voulez des exemples ? Une première qui donne le titre au recueil. Le disciple. Pour l'aveugle, l'oiseau chante. Pour le sourd, l'oiseau vole. Mais qui dit vrai au maître ? Le maître demande au muet. Une deuxième, le disciple. Maître, comment rester fidèle quand on désire une autre femme ? Le maître, si cette autre personne ne te désire pas, c'est l'enfance de l'art. Et la troisième pour la route, le disciple. Maître, l'homme n'est-il patient ou impatient ? Le maître, ça dépend. N'est-il avant ou après 9 mois de grossesse ? Demande au muet d'Hervé Letellier aux éditions Nous, un antidépresseur sans aucun effet indésirable pour passer l'hiver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
Vous êtes bien sur Radio Marseillais, votre radio audoise.